nous allons continuer cette lecture des différentes fautes premières qui nous sont montrées dans l'Écriture. Ces premiers aspects, si vous voulez, de ce que représentent les ruptures. Alors, nous avions vu cette première rupture d'Ève et d'Adam dans l'orgueil. La seconde rupture qui nous est montrée, c'est cette rupture qui se fait d'une manière tout à fait différente et qui est si importante entre les deux frères. Et entre les deux frères au moment même où ils adorent. Ou du moins, ils font un geste liturgique de reconnaissance de la toute-puissance de Dieu. Ce qui montre bien que les gestes extérieurs ne sont pas la garantie du lien avec l'Esprit Saint et dans la charité. On peut faire le geste extérieur sans que le cœur soit lié à ce geste. Ce qui est premier, c'est justement l'intention du cœur. Je crois que c'est cela qui nous est montré dans ce discernement que Dieu lui-même fait, que Dieu lui-même nous manifeste entre le point de vue de Caïn et d'Abel. Abel, lui, adore et est relié à Dieu d'une manière totale. Il est reclus en Dieu et ne s'occupe pas de Caïn. Alors que Caïn fait le même geste, la même liturgie, mais dans le fond de son cœur, il n'est pas relié à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il garde un certain droit, le droit d'aînesse, à l'égard de son frère. Il s'inquiète de son frère. On ne peut pas adorer Dieu et s'inquiéter de ce que celui qui est à côté de nous, notre frère, fait, réalise. On ne peut pas faire la même chose en même temps. Mais il y a une politesse à l'égard de Dieu qui est totale. L'adoration et la liturgie, c'est une politesse à l'égard de Dieu qui réclame qu'on soit tout entier reclus en Dieu. Si on n'est pas totalement reclus en Dieu, si on n'est pas totalement pris par cette intention profonde de notre cœur qui nous oriente vers Dieu dans l'adoration, et si on s'inquiète de son frère avec un certain droit sur lui, c'est-à-dire si on n'est pas assez pauvre, en définitive, garder le droit d'aînesse dans son cœur, c'est impossible d'adorer. L'adoration, c'est la créature en face de Dieu. Il faut la nudité de la créature pour adorer. On n'adore pas Dieu comme fils aîné. On n'adore pas Dieu en gardant ses droits. On ne peut pas. C'est très très important pour nous au point de vue apostolique, vous voyez. Parce que ce que nous devons essayer, c'est de ramener le cœur vers Dieu dans l'adoration. Il n'y a pas de conversion sans adoration. Et c'est le cœur qui doit se retourner vers Dieu. Ce n'est pas le fonctionnaire qu'on convertit. Ce n'est pas le fils aîné qu'on convertit. C'est l'homme. Et je crois que c'est ça qui nous est montré ici. Il nous est montré dès le point de départ de la Bible. On le reverra comme une constante dans toute l'Écriture. On verra que le mystère de l'adoration, c'est un mystère qui fait que c'est le cœur de l'homme qui se relie directement à Dieu. Et qui est relié directement à Dieu d'une façon telle qu'on est comme reclus en Dieu. Quand on adore, on est reclus en Dieu. Or, on peut toujours adorer. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas adorer. C'est dès qu'on n'adore plus qu'on se livre au démon. L'adoration, c'est la seule manière d'échapper au démon. Et c'est le discernement que nous devons faire nous-mêmes, ça. C'est chacun d'entre nous, nous devons faire ce discernement. Si nous ne faisons pas ce discernement, nous nous livrons au démon. Nous pouvons toujours rectifier fondamentalement notre cœur par l'adoration. Et les actes humains qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est cette intention de vie qui nous oriente vers Dieu dans l'adoration. On remonte jusqu'à Dieu et on veut remonter jusqu'à Dieu. Et c'est par là que nous rectifions profondément notre volonté. Et en rectifiant notre volonté de cette manière-là, on touche le mystère du Dieu créateur dans notre foi et par notre volonté. On peut adorer Dieu même en dehors de la foi d'une certaine manière, mais à cause des conséquences du péché, je crois qu'on ne peut adorer Dieu que par la grâce. Et la grâce nous est toujours donnée pour adorer Dieu. La grâce ne nous est pas toujours donnée pour contempler, ça c'est vrai. Mais la grâce nous est toujours donnée pour adorer. C'est pour ça que pour éviter l'imaginaire, pour éviter que l'imaginaire ne prenne possession de nous et vienne corrompre notre amour, il faut adorer. L'adoration est gardienne de notre raison. L'adoration est gardienne de notre bonne volonté. Nous sommes une âme de bonne volonté que quand nous adorons. Si nous n'adorons plus, eh bien, immédiatement à ce moment-là, on est livré à la jalousie. Parce que c'est par la jalousie que le démon pénètre. Hein. Et c'est, ça nous est bien montré. C'est par la jalousie. C'est la jalousie qui vient pénétrer dans le cœur de Cain et qui conduit Cain au fratricide. Parce que la jalousie va jusque-là. La jalousie fait une rupture profonde dans l'ordre de l'amour d'amitié, dans l'ordre de la charité fraternelle. C'est qu'on ne supporte plus la présence de l'autre. On ne supporte pas que l'autre passe devant. Donc on n'accepte pas d'aimer, parce que dès qu'on aime, on veut que l'autre passe devant. C'est le propre de l'amour, ça. Le propre de l'amour, c'est d'accepter que l'autre passe devant. Dès qu'on n'accepte plus que l'autre passe devant, eh bien ça prouve qu'on n'aime plus. Ça va loin, la charité fraternelle. Or, Cain n'a pas accepté qu'Abel passe devant. Pourquoi ? Parce que Cain n'a pas véritablement adoré. Il a fait les gestes extérieurs, extérieurement, c'est exactement comme Abel, mais il n'a pas fait le geste intérieur de cette bonne volonté de celui qui s'offre en même temps qu'il fait le geste extérieur. Mais je crois ça capital, hein, parce que c'est très important ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Hein. Je vous ai dit, c'est là où nous saisissons une théologie du péché, une théologie des ruptures. Alors c'est très important de voir comment la première faute se fait par une tentation extérieure et la seconde faute se fait par une tentation interne. C'est toute la différence entre l'orgueil et la jalousie. L'orgueil se fait par une séduction et une séduction de l'intelligence. Et cette séduction de l'intelligence se fait par l'extérieur. C'est-à-dire le démon agit. C'est le démon qui nous tente toujours du côté de l'orgueil. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la jalousie, j'allais presque dire le démon n'a pas besoin d'être présent. C'est extraordinaire, la bête est tapie là. Donc il n'a pas besoin d'être présent. C'est dans notre imaginaire. C'est notre imaginaire qui nous rend jaloux. Et le démon le sait, il laisse tranquille. Hein. Ça travaille très bien. Et c'est l'imaginaire qui nous rend jaloux. C'est l'imaginaire qui fait qu'on n'accepte pas que celui qui est à côté de nous, celui qui est notre Benjamin, passe devant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de tentation externe. C'est la bête est tapie, là. Ça, c'est l'imaginaire. Mais on peut lutter contre l'imaginaire. Comment lutter contre l'imaginaire ? C'est l'adoration. C'est la seule manière. Et c'est en ce sens-là que l'adoration, c'est vraiment la manière dont l'Esprit Saint nous éduque comme novice. On est novice du Saint-Esprit dans la mesure où l'on adore. Si l'on n'adore plus, on ne peut plus être novice du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on est livré à l'imaginaire. Et l'imaginaire, alors, prend de plus en plus. Oui, c'est un combat dans lequel on est, hein, faut pas l'oublier. Et on nous montre bien, la Genèse commence par un combat. Hein, un combat où on voit très bien l'ennemi extérieur qui pénètre de l'intérieur. La première faute ne pouvait pas être une faute de jalousie. La première faute ne pouvait être qu'une faute d'orgueil. Mais la seconde faute pouvait être une faute de jalousie. Parce que, par le point de vue de l'orgueil, le point de vue imaginaire peut être saisi et alors peut nous faire qu'on s'oppose à son frère. Après s'être opposé à Dieu, on s'oppose à son frère. Après avoir blessé Dieu par l'orgueil, on blesse son frère. Et on ne veut pas accepter, on ne veut pas accepter que le Benjamin passe devant. On n'accepte pas que qu'Abel passe devant. Vous voyez, c'est très très important de voir ces deux aspects, si vous voulez, ces deux fautes. Je termine, Caïn dit à Yahvé, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui de dessus la face du sol, et de la face et de ta face je dois me cacher. Donc vous voyez la double conséquence du péché. L'orgueil fait qu'on se cache de la face de Dieu. Et la jalousie fait qu'on se cache de la face du sol. C'est la conséquence immédiate de la faute de jalousie et d'une jalousie qui va jusqu'au fratricide. La jalousie tue l'autre. Parce que la jalousie fait qu'on n'accepte pas que l'autre passe devant. Et donc ça nous tue. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors, quiconque me rencontrera me tuera. Donc, Caïn sent très bien, en raison même de son fratricide, il n'a plus de place sur la terre. Parce qu'il n'a pas respecté. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Je vous avais dit, il faut bien comprendre hein, ce premier thème, ce point de départ du thème du sang, qu'on va retrouver à travers toute l'écriture. Alors faites une fiche sur le sang, parce que ça c'est très important, à travers toute l'écriture. C'est un des aspects qui est très très important à souligner, et de voir ici tout de suite, hein, à ce chapitre 4. Et Caïn sait très bien qu'à cause de ça, il est un errant. Un errant, c'est-à-dire celui, un errant et un fugitif, celui qui ne peut plus s'enraciner sur la terre, celui qui n'a plus de lieu. Et quand Jésus dit « Je n'ai plus, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête », c'est Jésus qui prend la place de celui qui accepte la malédiction de la terre, puisqu'il porte sur lui toute l'iniquité du monde. Et donc il porte cette iniquité, il porte ce rejet, il est l'errant par excellence. Parce qu'il porte la conséquence du péché et la conséquence de la jalousie, la conséquence de la jalousie fratricide, c'est de faire qu'on n'a plus de lieu sur la terre. Je serai errant et fugitif sur la terre. Alors quiconque me rencontrera me tuera. Et alors cette précarité terrible, cette fragilité effrayante de celui qui justement a tué et qui sait très bien parce qu'il a tué, on le tuera. Il risque d'être tué. Mais œil pour œil, dent pour dent. Cette espèce de fausse justice, mais qui est en nous. Hein. Nous avons en nous cela, nous savons très bien, qui est comme une espèce de justice immanente. C'est pas juste hein, par rapport à Dieu, mais c'est nous, c'est notre psychologie qui porte ça. C'est la psychologie de celui qui a tué ça. Je serai errant et fugitif sur la terre, alors quiconque me rencontrera me tuera. Parce qu'on sent très bien que c'est la psychologie de Caïn, puisque ça n'a aucun sens par rapport à la réalité. Donc il faut bien le comprendre. C'est d'autant plus éloquent que, de fait, celui qui a tué sait très bien que du fait même qu'il a tué, il est lui-même capable d'être tué. Il n'a plus aucun droit à la vie. Qu'il a tué. Il n'a plus aucun droit à la vie. Il n'a pas respecté l'autre. Ça va très loin, vous savez ça. Ça va très loin. Celui qui n'a pas respecté le tout petit, celui qui n'a pas respecté la fragilité du tout petit, celui-là sait très bien qu'il n'a plus de droit à la vie. Alors, c'est une de ces paroles très très fortes. Et ça, c'est d'ordre, j'allais dire, d'ordre de la conscience du pécheur, vous voyez. Celui qui comprend ça, je serai errant et fugitif sur la terre, et alors quiconque me rencontrera me tuera. Il avait lui dit, eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Alors c'est Dieu qui lui-même vient supprimer ce complexe terrible du fratricide. C'est Dieu lui-même qui vient montrer que nous n'avons pas le droit de nous laisser aller à cette justice immanente. Cette justice immanente, c'est l'attitude réflexive, normale et instinctive de l'homme, mais Dieu est au-delà de tout cela. Eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Dieu ne veut pas que l'homme fasse vengeance à l'homme. La justice à l'égard de la vie de l'homme appartient à Dieu. Alors évidemment, ce serait un de ces lieux très intéressants pour se demander si on a le droit de faire disparaître un criminel, vous voyez. Ce serait un principe très intéressant ici, parce que c'est dit textuellement ici. Yahvé lui dit, eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Et Yahvé mis un signe sur Caïn pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrerait. C'est un signe de protection. Dieu va protéger le criminel. Dieu va protéger le fratricide. Dieu sera le garant. Plus personne d'autre, il n'y a que Dieu. Ça, c'est une des miséricordes les plus extraordinaires de Dieu, qui nous est montrée là tout de suite. Vous voyez, face à ce point de vue de la jalousie. Ce qu'on ne souligne pas assez, hein, d'habitude. Et c'est vrai, d'habitude, on ne voit pas qu'il y a là une miséricorde extraordinaire de Dieu par rapport à la personne humaine. C'est que la vie appartient à Dieu. Et parce que la vie appartient à Dieu, même si on est criminel et qu'on a supprimé la vie de quelqu'un, eh bien, malgré ça, on reste dépendant de Dieu. Vous n'avez qu'à comprendre par rapport à Satan. Dieu reste le garant. C'est vrai. Parce que Dieu est l'auteur de la vie et de la mort. Caïn se retira loin de la face de Yahvé. Il habita au pays de Nod, à l'est de l'Éden. Il ne comprend pas très bien la miséricorde de Dieu, vous voyez. Il continue d'avoir peur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il se retira loin de la face de Yahvé. Juste au moment où Dieu dit qu'il sera là comme garant, qui a le signe. Alors c'est ça qui est très mystérieux, hein. Il ne comprend pas ce signe. Et il se retire de la face de Yahvé. Parce qu'au fond, il ne demande pas vraiment pardon. Il a eu peur de disparaître. Il n'a pas regretté sa faute. Il y a deux choses différentes. Vous savez, on a peur de la vengeance des autres. Ça ne veut pas dire qu'on a le sens de la faute. S'il avait eu le sens de la faute, il aurait reçu le pardon, et à ce moment-là, il serait resté dans la présence de Dieu. Il aurait compris sa faiblesse. Mais alors, on voit très bien qu'il a eu peur de disparaître. Il l'a dit à Dieu, sa crainte, et Dieu a dit, non, n'aie pas de crainte, je serai là. Et malgré ça, malgré ce signe que Dieu lui donne, il ne fait pas un acte de contrition, si vous voulez. Il se considère comme, oui, il a agi à sa manière, selon ce qui lui semblait bon. Caïn se retira loin de la face de Yahvé, il habita au pays de Nod, à l'est de l'Éden. On pourrait encore dire beaucoup de choses. J'y reviendrai sur la question de la jalousie, parce que c'est un grand thème, je crois que c'est suffisant. Il ne faut pas rester trop longtemps dessus. Parce que ça vous donne des complexes, hein, de jalousie, alors c'est très dangereux. Alors il ne faut pas rester indéfiniment sur la jalousie. Mais c'est très vrai que la jalousie est une des fautes très très fondamentales, parce que ça brise la communauté. Toute communauté est brisée par la jalousie. n'est pas une faute de sentir la tentation de jalousie, c'est une faute de céder à la tentation de jalousie. Vous voyez, il y a les deux grandes fautes, hein, l'orgueil et la jalousie. Ça, c'est sûr. Mais ça se présente tout à fait différemment. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Ça se présente tout à fait différemment. Mais ce sont les deux grandes fautes. Alors, nous allons maintenant voir la troisième grande faute. Caïn connut sa femme. Elle conçut, enfanta Enoch. Alors, ça, c'est aussi très intéressant à voir. Hein. Parce qu'on voit que malgré la faute, grâce au signe de Dieu, Caïn peut être encore source de vie. Il peut encore faire quelque chose de grand. Comme il bâtissait une ville, il appela la ville du nom de son fils, Enoch. À Enoch naquit Irad. Irad, alors c'est toute la question de la généalogie, c'est pas la peine de la voir. Ce serait intéressant de la voir, mais alors il faudrait regarder ça de très près, voir exactement ce que représentent tous ces noms. Si on a le temps, on viendra un jour là-dessus. J'aime mieux avancer, parce que je crois que ça n'apporte pas énormément. Le nom de l'une était Ada, le nom de la seconde était Silla. Ada enfanta Yabal. Celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Voyez la réviviscence d'Abel. Vous savez bien que selon les grandes traditions, il y a toujours deux races. Il y a la race de ceux qui habitent sous la tente et qui ont les troupeaux. Et puis il y a ceux qui sont des agriculteurs, pas tout à fait de la même noblesse. Alors c'est intéressant de revoir ça. Abel, c'était le troupeau. Alors certains disent c'est pour ça que le fruit d'Abel a été reçu. Ça, c'est pas tout à fait juste de dire ça. C'est beaucoup plus juste de le voir ici, vous voyez. Adam enfanta Yabal, celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, celui-ci fut le père de tous ceux qui manient la lyre et le chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, le père de tous ceux qui travaillent le bronze et le fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Alors voyez, là c'est intéressant, c'est très intéressant de voir que de fait vous trouvez dans l'Écriture cette diversité du travail, la division du travail. Hein, ça nous rappelle quelque chose, la division du travail. Alors c'est intéressant de voir que de fait, la division du travail vous est donnée dès le point de départ. Hein. Et vous avez la division du travail si vous regardez attentivement. Vous avez donc, il bâtissait une ville. Premier architecte, Caïn. Il faut se consoler. Bâtissait une ville. Vous savez bien que bâtir une ville n'est pas un éloge pour l'écriture. Hein. C'est quelque chose d'assez particulier. On risque toujours, quand on bâtit une ville, de s'enorgueillir qu'on est le bâtisseur d'une ville. Et alors, il donne le nom de son fils à cette ville. Hein. Alors, on voit ensuite le point de vue de la race de ceux qui sont les pères qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Puis, le père de tous ceux qui manient la lyre, le chalumeau. Puis, ceux qui travaillent le bronze et le fer. Et là, on peut dire les premiers, ceux qui sont de la race de Caïn aussi, qui cultivent simplement. Vous avez donc la division du travail, première division du travail, qui nous est donnée ici. Alors, évidemment, c'est simplement une constatation. Il n'y a pas du tout de raisonnement là-dessus. Hein. Rien du tout. La mèche. Dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de la mer, prêtez l'oreille à ma parole. Alors, vous voyez, dites, tout de suite, vous voyez les deux femmes. Hein. Ça vous dit long, ça. Hein. Intéressant aussi à noter. C'est arrivé assez vite. Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de la mer, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un enfant pour ma meurtrissure, car sept fois sera vengé Caïn, mais la mec sept fois. Adam connut de nouveau sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom Seth. car Dieu m'a accordé un autre rejeton à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi, il naquit un fils. Il appela du nom d'Enoch. Alors, on commença d'invoquer le nom de Yahvé. Alors, vous voyez comme c'est difficile, hein, en point de vue logique. Non, c'est très difficile. C'est ça que je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais c'est intéressant à regarder. Ceux qui aiment les généalogies, faites les généalogies. Ceux qui aiment à regarder cette diversité du travail. La diversité du travail, c'est du côté de Caïn. Ici, c'est la race des élus, Seth. Soyez du bon côté. Hein. Car Dieu m'a accordé un autre rejeton à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi, il naquit une ville. Il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. Alors on commença d'invoquer le nom de Yahvé. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu, il le fit, mâle et femelle, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme, le jour où ils furent créés. Quand Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image. Et l'appela du nom de Seth. Vous voyez cette chose curieuse. Hein? Ça aussi, c'est très intéressant à voir. Quand Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image. Oui, on est créé selon le début de la Genèse, à la ressemblance de Dieu, et quand il a 130 ans, il va avoir son petit rejeton. N'est-ce pas? On voit très très bien ça. C'est des choses beaucoup plus humaines. Hein. Vous voyez, vous avez la verticale et vous avez l'horizontale. Hein. Ça va vite, l'horizontale, vous savez. On ne reste pas très longtemps dans la verticale. Et on veut tout de suite l'horizontale. C'est pas étonnant, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, si on est créé à l'image de Dieu, on fait comme Dieu. Et nécessairement, la descendance aura sa ressemblance comme à son image. Et il l'appela du nom Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 et il engendra des fils et des filles. Et les jours que vécut Adam furent en tout de 930 ans, puis il mourut. Alors, toutes les généalogies, hein, je vais sauter toutes les généalogies, c'est-à-dire tout le chapitre 5, parce que ces choses-là, c'est intéressant, mais je n'entre pas dedans, hein, c'est pas la peine. Surtout qu'on sait, aujourd'hui, on sait très bien ces généalogies. Regardez les pères de l'Église. Hein, les pères de l'Église voient toujours des très grands symbolismes dans tout cela. C'est très difficile de comprendre exactement ce que ça veut dire. Hein. On sait très bien que tout ça a un symbolisme. C'est pas historique, hein. C'est symbolique. C'est un langage symbolique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand vous comptez les jours de Mathusalem, hein, furent en tout de 969 ans. Alors si le point de départ et le terme, ça se ressemble, hein, voyez bien, hein, ça promet. Puis il mourut quand la mère eut vécu 182 ans, ça fait pas grand-chose, il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé. Alors je cite parce que c'est Noé. Hein. Celui-ci, dit-il, nous consolera de notre tâche et de la peine de nos mains qui vient de ce sol qu'a maudit Yahvé. Après qu'il eut engendré Noé, Lamech vécut 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Les jours de Lamech furent en tout de 777 ans. Puis il mourut. Quand Noé fut âgé de 500 ans, Noé engendra Sem, Cam et Japheth. Alors, chapitre 6. Lors donc que les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol, donc sur plusieurs générations, hein. On est passé du bon départ. C'est ça qu'il y a. Donc, il y a tout un aspect qui est perdu dans la nuée des temps. Lors donc que les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les fils, que les filles des hommes étaient belles. Ils ont mis du temps à comprendre ça. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Alors ça aussi, c'est très curieux. Encore une fois, c'est tout ça, c'est difficile. Hein? Alors, je n'insiste pas trop sur ces choses-là, parce qu'on peut donner des interprétations multiples. Mais c'est intéressant quand même. Faut pas... Tout est intéressant dans l'écriture. Hein? Tout est intéressant. Vous pouvez passer votre vie à essayer de comprendre les généalogies. Hein? Ça vaut la peine. Vous trouverez sûrement des tas de choses très intéressantes en regardant les pères de l'Église qui en parlaient. On voit que Dieu va diminuer les jours de l'homme. Dieu est le maître de la vie et de la mort. C'est ça que ça veut nous montrer. 900, 700, 800. Commun de ces géants. Même après le péché, vous voyez. Encore une fois, symbolique. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez ici, alors vous voyez cette chose curieuse. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors qu'est-ce que c'est que ces fils de Dieu? Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Il y a un choix. Il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne demeurera pas toujours, ça ne veut pas dire que Dieu va supprimer l'âme immortelle, vous voyez, c'est pas ça du tout. C'est de montrer que la mort va être plus proche. Et que la mort dépend du bon plaisir de Dieu. Les néphilines étaient sur la terre en ces jours-là, et même après, quand les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont les héros des temps antiques, des hommes de renom. Ce petit reste, vous voyez, quand vous regardez ces choses-là, dans Platon par exemple, dans toutes les légendes, hein, vous voyez qu'il y a toujours eu cette espèce de nostalgie de géant. Comme si l'humanité avait connu des hommes de renom, les héros des temps antiques. C'est la parole de Dieu, ça. On va dire que c'est un mythe. Oui, c'est un mythe, c'est sûr. C'est un mythe, en ce sens, je ne peux pas le vérifier historiquement. Il y a quelque chose de très, très curieux que l'Écriture nous montre. Il y a eu comme une alliance mystérieuse des filles des hommes et des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces fils d'hommes? Parce que fils de Dieu, on peut dire qu'on est fils de Dieu du fait même qu'on est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance. C'est bien évident. Alors, on a donné des tas d'hypothèses. Hein? Donc, là encore, poser un problème avec un point d'interrogation, parce que ça reste très difficile. Vous voyez, le père Stig, il est fils de Dieu, les êtres qui appartiennent au monde divin. Ils forment la cour céleste de Dieu. On dit ça après coup, pas devant des choses difficiles à comprendre. Certains parmi eux remplissaient les fonctions de messagers, c'est-à-dire d'anges. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire que c'est les anges qui s'allient avec les fils d'hommes, on ne peut pas dire ces choses-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire, je crois, qu'on veut maintenir qu'il y a eu, dans la nuée des temps, des héros, des hommes de renom. Et pour qu'il y ait des hommes de renom, il fallait que les souches soient bien. Alors on voit très bien les fils de Dieu et les filles et les filles des hommes qu'on avait distingués. Hein. C'est les plus belles. C'est très curieux. La beauté de la femme et les fils de Dieu qui donnent les humilités. Je crois qu'il y a cela. Je n'insiste pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Yahvé vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que pensées mauvaises à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Alors vous avez là un langage symbolique, anthropomorphique, très extraordinaire. Et Yahvé ne s'est pas repenti tout de suite. Il a fallu que l'homme s'exalte, que l'homme connaisse une certaine puissance, une certaine grandeur. Yahvé vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que pensées mauvaises à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea dans son cœur. Yahvé dit, « Je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Autrement dit, il y a une rupture. Je crois que c'est cette idée-là qu'il faut comprendre. Il y a d'une certaine manière, vous voyez, une espèce de montée, on pourrait dire, une rupture. La montée, les alliances des fils d'hommes, des fils de Dieu, des filles des hommes, c'est qu'on est en face d'hommes particulièrement grands. Mais en même temps, l'orgueil grandit. En même temps, la méchanceté du cœur, donc la jalousie, augmente, puisque les deux premières fautes vont en croissant. Et c'est pour ça qu'il y a une rupture. Dieu va tout reprendre. Dieu va tout effacer. C'est, je crois, très important au point de vue de l'économie divine, ça. C'est que Dieu fait des ruptures. Dieu n'est pas uniquement dans la continuité, vous voyez. Dans l'économie divine, on veut nous montrer qu'il y a des ruptures. Ça fait partie du plan de Dieu. Et je crois que c'est ça qui nous est montré ici. Il y a une continuité jusque-là, hein. Ça c'est bien évident, il y a une continuité. Il y a une grande montée de toutes ces générations, une rupture, à cause de la malice de l'homme, à cause du cœur de l'homme qui est fourvoyé. La malice, c'est le cœur. Hein? La malice, c'est du côté de l'intelligence. Et le cœur ne formait que des pensées mauvaises à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea. Et donc Yahvé veut effacer tout. Il veut tout reprendre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Alors, tout va être repris. Vous avez dit, Adam et Ève, à Noé. Une multitude, hein, une multitude, ça va jusqu'à des héros, ça va jusqu'à une espèce de grandeur, mais le cœur de l'homme, et c'est ça je crois, le cœur de l'homme se pervertit. C'est la seule chose que Dieu regarde. Peu importe les héros, peu importe cette espèce de grandeur, de dignité, ça importe peu. Pour Dieu, ça n'a aucun sens. Dieu regarde la pureté du cœur. Alors, tout est repris avec Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, parfait, parmi ceux de sa génération. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam, Japheth. On l'a déjà dit, on reprend. La terre se pervertit devant Dieu et la terre se remplit de violence. La terre se pervertit à cause du cœur de l'homme. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Alors notez bien, la violence, c'est très important ça. Perversion du cœur qui conduit à la violence. Voici que je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu disposeras l'arche en cellule, et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est Dieu architecte. C'est quand même intéressant, vous voyez. Troisième geste de Dieu. Hein. Vous avez le geste du potier, du chirurgien et de l'architecte. C'est quand même très important de voir que Dieu sauveur, c'est l'architecte. Le Dieu créateur, c'est le potier et le chirurgien. C'est toujours pour comprendre ce langage symbolique. Hein. Or, ici, il s'agit de sauver par Noé. Par la médiation d'un homme. Ce n'est pas une recréation. C'est la médiation d'un homme. Il y a un médiateur. Cet homme est juste. Au milieu de la perversion, il y a un homme juste. Alors, comment on peut rester juste au milieu de la perversion? Au milieu de la violence, il y a un homme qui craint Dieu. Alors Dieu le regarde. Un amour unique. Vous voyez, on comprend très bien, vous savez, et c'est à mettre en parallèle du reste avec... ce qu'on voit au point de vue de l'histoire d'Abraham, avec le point de vue de l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez, il y a quelque chose d'analogue qu'il faut mettre en parallèle, c'est évident. Parce que là, la médiation, un seul homme juste, avec ses trois fils quand même, hein. Donc il y a quand même une petite trinité, une petite famille qui est gardée. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici que je vais les détruire ainsi que la terre.